Voilà, bonjour à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. J'aimerais commencer par quelques questions pour nous aider à rentrer dans le sujet de ce matin. Est-ce qu'il vous arrive de prier pour les autres ? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous demandez à Dieu pour eux, pour ces personnes pour lesquelles vous priez ? À quelle occasion le faites-vous ? Est-ce que votre prière pour les autres est généralement pour un besoin spécifique ou alors pour autre chose ? Et ce matin, j'aimerais nous encourager à prier les uns pour les autres, ça c'est une première chose, et à le faire non seulement quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un est au chômage, ce qui est très bien, bien évidemment, c'est bien de le faire à cette occasion, mais aussi pour demander ce que nous allons voir dans le texte de ce matin, pour demander autre chose, et peut-être autre chose dans la ligne de ce que l'apôtre Paul prie, intercède pour les Colossiens dans la prière que nous allons considérer ce matin. Avant de la lire, j'aimerais juste dire quelques brefs mots de contexte pour situer cette église de Colosse et le contexte aussi de cette prière, de ce texte. C'est certainement Épaphras qui a fondé l'église de Colosse. Épaphras est un compagnon de service de l'apôtre Paul. Il est mentionné au début de la lettre. L'église de Colosse ou la ville de Colosse se trouvait en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. Et on pense, en tout cas les personnes qui se sont penchées sur la question, pensent que l'apôtre Paul ne s'est jamais rendu à Colosse. Pourtant, c'est bien l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux Colossiens. Il l'écrit depuis Rome, depuis la ville de Rome. Il est à la fin de sa vie. Il est emprisonné à ce moment-là et nous sommes dans les années 60-62, donc du 1er siècle. L'apôtre va écrire cette lettre après que Épaphras, à qui on attribue donc la fondation de cette église, soit venu trouver l'apôtre Paul, soit venu chercher conseil auprès de lui. Et comme l'apôtre Paul est en prison à ce moment-là, Épaphras va rester un moment avec lui, il ne va pas hésiter à partager la captivité de l'apôtre Paul, c'est ce que nous comprenons en particulier de ce qui est dit dans la lettre à Philémon. Une dernière chose, quand l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Colossiens, l'Église est toute jeune, elle doit avoir à peu près 6 à 8 ans d'âge, hein, donc c'est vraiment une Église dans les premières années. Et à ce moment-là, elle se trouve menacée par toutes sortes d'hérésies. Et par hérésie, j'entends bien évidemment des enseignements contraires à ceux des apôtres. Et donc c'est dans ce contexte, que j'ai brossé vraiment très très rapidement, que l'apôtre va écrire son épître, sa lettre aux Colossiens. Et son désir est d'affermir ses frères et ses sœurs en la foi, qu'il ne connaît pas directement, mais qu'il connaît par ce que Épaphras lui a dit. Et nous allons voir tout ça dans la prière. Alors justement, venons-en à cette prière qui se trouve au début de l'épître aux Colossiens. Elle vient très rapidement dans la lettre, tout de suite après les salutations d'usage. Je vais lire la lettre en entier, même si je ne vais parler que sur les versets 9 à 11. Je passerai donc sur la première partie, qui est une partie où il est plus dans les remerciements, pour m'arrêter sur la partie où il intercède pour les Colossiens. Donc je vais lire Colossiens 1, versets 1 à 11, et je vais lire dans la Nouvelle Bible Second. Je commence donc au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, au frère qui à Colosse sont saints et dignes de confiance dans le Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon d'esclavage bien-aimé. Il est pour vous un ministre du Christ digne de confiance, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une espérance et d'une patience à toute épreuve. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une espérance et d'une patience à toute épreuve. Et si nous prions ainsi les uns pour les autres? Et si nous avions tous, chacun, le souci de la maturité spirituelle des autres, de chacun, et si nous prions ainsi les uns pour les autres? Avant de rentrer dans le détail de cette prière, j'aimerais simplement souligner que cette prière ne vient pas de nulle part. En fait, elle est fondée sur ce que l'apôtre a entendu, appris d'Épaphras à leur sujet. Nous l'avons lu et j'ai simplement souligné les éléments dans le texte qui l'indiquent. Verset 4, nous avons en effet entendu parler de votre foi, etc. Verset 8, il nous a appris, en parlant d'Épaphras, de quel amour l'Esprit vous anime. Et puis, au verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous. Deux remarques me paraissent intéressantes à faire ici. La première, c'est qu'il est toujours bon, me semble-t-il, que nos prières soient des prières informées. Je vous donne un exemple. Prier pour les missionnaires en général, c'est bien. Seigneur, bénis tous les missionnaires de la terre. Bon, je ne sais pas comment Dieu va exaucer cette prière, mais prier spécifiquement, peut-être à partir d'une lettre de nouvelles, pour des situations précises, me semble beaucoup plus pertinent. Et c'est d'une certaine manière ce que Paul fait ici, en priant à partir de ce qu'il a entendu, appris de la bouche d'Épaphras. La deuxième remarque, c'est le constat que l'apôtre ne demande pas de nouvelles choses pour ses frères et sœurs de Colosse, mais simplement qu'ils grandissent, qu'ils s'affermissent dans ce qu'ils ont déjà reçu, dans ce qu'ils ont déjà compris, et qu'il a évoqué dans la première partie de la lettre sur laquelle je ne vais pas m'arrêter. En fait, les Colossiens, comme nous d'ailleurs, n'avaient pas besoin de nouvelles choses. Ils n'avaient pas besoin de faire de nouvelles expériences. Ce qu'ils avaient besoin pour leur croissance et leur maturité spirituelle, ils le possédaient déjà en Jésus-Christ. Un peu plus loin, dans cette même lettre, l'apôtre dira au chapitre 2, verset 10, qu'ils sont comblés en Christ. C'est-à-dire, une autre traduction dit qu'ils ont tout pleinement en lui. Ils ont déjà tout pleinement en Christ. Si nous sommes nés de nouveau, je crois que nous devons résister à cette tentation, à cette idée que nous avons toujours besoin de nouveautés pour progresser dans la foi, pour progresser dans notre relation à Dieu. Ce que nous avons ou ce dont nous avons besoin pour progresser, c'est de toujours plus puiser en Christ, en qui nous avons tout pleinement. Clairement, dès que la télécommande me laissera passer à la diapo suivante, clairement, Paul désire qu'ils grandissent, qu'ils progressent dans la foi. Mais que demande-t-il pour eux ? Notons tout d'abord que ce qu'il demande pour ces Colossiens, il le demande avec insistance, il le demande avec persévérance. Nous ne cessons de prier pour vous, ou de prier Dieu pour vous. Il avait déjà dit au verset 3, il le redit ici au verset 9. Et que demande-t-il avec insistance ? Il commence par demander au verset 9 qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Ah, la volonté de Dieu. Voilà un sujet simple et compliqué à la fois. En tout cas, c'est un sujet qui soulève toujours beaucoup de questions. Et souvent, quand nous pensons à la volonté de Dieu, nous pensons rapidement ou en particulier à toutes les décisions importantes que nous devons prendre, que nous voulons prendre et que nous voulons prendre conformément à la volonté de Dieu. Mais en fait, ici, dans le texte, le sens est beaucoup plus large que simplement ces directions dont nous avons besoin pour certaines décisions. La volonté de Dieu dont Paul parle ici, c'est ce que Dieu veut pour chaque homme et pour chaque femme sur cette terre. C'est son plan d'amour éternel manifesté en Jésus-Christ. C'est la vie nouvelle qu'il offre à chaque homme et à chaque femme sur cette terre et qu'il l'offre bien sûr par Jésus. Et l'apôtre demande à Dieu qu'il soit rempli de cette connaissance de la volonté de Dieu. Il demande la plénitude. Pour le dire un petit peu plus trivialement, il demande que ça déborde, qu'il y en ait tellement que ça déborde, que ça remplisse complètement la vie. Pourquoi ? Parce que, comme nous allons le voir, cette connaissance, elle est le socle de tout ce qui va suivre ensuite. Sans cette connaissance de la volonté de Dieu, le reste ne peut pas se faire, du moins ne peut pas se faire tel que Dieu l'entend. Notons ici que dans la pensée biblique, être rempli par quelque chose, c'est être conduit par cette chose. Si je suis rempli de colère, je suis conduit par la colère. Si je suis rempli de l'esprit, je suis conduit par l'esprit. Si je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, alors je suis conduit par la volonté de Dieu. Et la question à laquelle nous devons maintenant répondre est bien évidemment celle-ci. Comment être rempli de cette connaissance de la volonté de Dieu? Si Dieu peut bien évidemment nous instruire directement, personnellement et directement par son esprit, il a choisi néanmoins de le faire généralement par sa parole. Sa parole dans laquelle il a révélé tout ce dont nous avons besoin pour notre salut et pour mener une vie à sa gloire. Notons que si Dieu s'est révélé, c'est bien parce qu'il désire que nous le connaissions et que nous connaissions sa volonté. Cela veut dire que la connaissance de sa volonté n'est pas réservée à une élite, mais elle est accessible à chacun qui le désire. Ainsi, par la lecture de la parole de Dieu, la Bible, et par l'illumination du Saint-Esprit, chacun peut connaître ce que Dieu veut. Il faut bien évidemment le faire dans un esprit d'humilité, en demandant à Dieu de nous instruire. Je précise cela parce que la connaissance dont nous parlons, ce n'est pas l'accumulation d'un savoir intellectuel de la Bible. C'est une connaissance qui nous nourrit, c'est une connaissance que nous laissons nous atteindre au plus profond, que nous laissons nous transformer et qui nous fait grandir dans la foi et nous pousse à agir et que seul l'Esprit de Dieu peut produire en nous. En effet, la connaissance dont nous parlons n'est possible que par le renouvellement de notre intelligence. Renouvellement que l'Esprit et la parole produisent en nous. Alors ça éveille tout de suite un texte bien connu, hein, ce texte de Paul dans l'Épître aux Romains, où il dit précisément cela, que c'est le renouvellement de notre intelligence qui nous transforme et qui nous permet ensuite de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette action de l'Esprit est soulignée dans notre passage par ce que l'apôtre ajoute ensuite quand il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » En toute sagesse et intelligence spirituelle, je fais une paraphrase pour dire que ça veut dire « par l'action de l'Esprit ». Et d'ailleurs, les traducteurs de la Bible du Semeur l'ont compris ainsi, et ils traduisent qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Oui, nous avons besoin que le Saint-Esprit illumine notre cœur, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, pour nous en particulier. La connaissance intellectuelle ne suffit pas. Satan connaît parfaitement la Bible. Il connaît la volonté de Dieu, mais pas de la bonne manière. Il faut que cette connaissance soit éclairée par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et de connaissance. Et il faut que cette connaissance trouve en nous le désir de nous y conformer. C'est ainsi que quand nous lisons la parole, quand le Saint-Esprit nous enseigne, quand nous nous soumettons à lui, quand nous prions et cherchons sincèrement la vérité de Dieu, il nous donne la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans une autre de ses lettres, la lettre aux Éphésiens, au début, au chapitre 1, verset 17. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » C'est l'Esprit qui nous le fait connaître. qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, etc. Oui, Dieu désire que nous connaissions sa volonté. Et il nous l'a fait connaître. Et il nous a donné son esprit pour nous la faire comprendre. En Christ, nous sommes renouvelés en vue de la connaissance. Je cite ce que Paul dira un petit peu plus loin dans cette même lettre aux Colossiens au chapitre 3, verset 10. En Christ, nous sommes renouvelés en vue de cette connaissance. Voilà précisément comment il le dit. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, l'homme nouveau, qui se renouvelle en vue de la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Paul désire donc qu'il grandisse, qu'il progresse dans la foi, qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais pourquoi faire ? En fait, il demande cela parce que, comme je le disais, tout le reste dépend de cela. C'est la connaissance de la volonté de Dieu illuminée par l'Esprit qui va permettre à l'enfant de Dieu de vivre la vie à laquelle Dieu l'appelle. Et c'est ainsi que l'apôtre continue dans sa prière en demandant pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue. La première chose qui découle d'une pleine connaissance de la volonté de Dieu, c'est un comportement digne, une vie digne du Seigneur. Et c'est ce que Paul demande pour les Colossiens. Oui, la connaissance de la volonté de Dieu va nous permettre concrètement de vivre une vie qui plaît à Dieu. Et la vie chrétienne n'a pas de sens si elle n'est pas vécue pour plaire à Dieu. Si je suis au Seigneur, du verbe être, si je suis du verbe suivre le Christ, donc si je suis chrétien, hein, dans ce sens-là, je dois chercher à vivre selon lui, selon sa volonté, selon ses instructions. C'est une question de cohérence. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons cette exhortation à de nombreuses reprises tout au long du Nouveau Testament. En voici quelques exemples. Éphésiens 4, versets 1 à 3. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Nous vous avons encouragé, réconforté, adjuré de vous comporter d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et un peu plus loin dans cette même première lettre aux Thessaloniciens, au reste frères, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. C'est bien ce que vous faites. Mais progressez encore. Un dernier, et puis on pourrait continuer, seulement conduisez-vous, c'est Philippiens 1, verset 27, d'une manière digne de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont fait le choix de suivre Christ, doivent plaire à Dieu et doivent tout mettre en œuvre pour vivre une vie qui soit à sa gloire. Et cela ne peut se faire que si je sais ce qui plaît à Dieu, que si je sais ce que Dieu veut, que si je connais sa volonté. J'aimerais souligner ici que ce dont nous parlons est en fait un cercle vertueux où la connaissance va produire la sainteté, ce comportement digne, et la sainteté va produire encore plus de connaissances, qui produira encore plus de sainteté, et ainsi de suite. C'est ça, la croissance spirituelle. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça marcher en nouveauté de vie. Avant d'être à Christ, avant d'être en Christ, nous nous comportions selon les principes de ce monde. Mais maintenant, nous cherchons à vivre en conformité avec ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Nous cherchons à vivre en conformité avec ce que nous avons appris du Christ, avec ce que nous avons appris de sa volonté. C'est bien évidemment un idéal vers lequel nous tendons. C'est bien évidemment un processus qui va durer toute notre vie ici-bas. Un processus qui dit qu'il y a la vie de Dieu en nous. Un processus qui, quand il est absent, témoigne que la vie nouvelle n'est pas là. Chers amis, où en sommes-nous de notre désir de plaire à Dieu? Quelle belle résolution à prendre en ce début d'année que celle de vouloir marcher en 2023 d'une manière digne du Seigneur. Quelle belle prière aussi à faire les uns pour les autres, sans jugement, mais avec le désir de voir chacun progresser tout au long de cette année. Oui, prions les uns pour les autres, afin que nous progressions chacun dans une vie digne du Seigneur. Si la connaissance de la volonté de Dieu nous amène à vivre une vie digne de lui, elle nous amène aussi à porter du fruit. Par toutes sortes d'œuvres bonnes, dit Paul ensuite au verset 10, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes. Et j'aimerais tout d'abord ici souligner l'ordre des choses. Quel est-il ? Ben, ça commence par la nouvelle naissance. C'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Ça doit commencer par la nouvelle naissance. Puis vient la connaissance. Éclairés par l'Esprit, nous rentrons dans la parole et nous apprenons à connaître la volonté de Dieu. Et puis ensuite vient la marche, ou au même temps, hein, là je décortique un petit peu, les choses se font quand même aussi un peu simultanément, mais voilà, s'il faut mettre une progression, ça sera celle-ci. La marche d'une manière digne, en tout cas une progression notable dans cette marche d'une manière digne du Seigneur. Et ensuite viennent les fruits. Le travail pour le Seigneur, servir le Seigneur, les fruits pour le Seigneur qui doivent découler de tout ce que j'ai mentionné avant. Et parfois, nous mettons un peu la charrue avant les bœufs. Nouvelle naissance, connaissance éclairée par l'Esprit, marche d'une manière digne du Seigneur, et ensuite, les fruits à sa gloire. Je ne peux pas servir le Seigneur et porter du bon fruit si je ne marche pas avec lui. C'est quand même une évidence. Si je ne marche pas avec le Seigneur, je vais peut-être porter du fruit, mais ça ne sera pas le fruit dont parle ce texte. Je ne peux pas marcher avec lui et selon lui si je suis ignorant de sa volonté. Hein, je prends la progression dans l'autre sens. Et puis, je ne peux pas m'attacher à sa volonté si je ne suis pas né de nouveau et si l'Esprit n'est pas à l'œuvre dans mon cœur, dans ma vie. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions cet ordre des choses. C'est le croyant qui passe du temps, qui se nourrit de la parole, qui passe du temps dans la prière, qui connaît la volonté de Dieu, qui est ensuite capable de marcher avec le Seigneur et de porter du fruit, du bon fruit. Une vie vécue à la gloire de Dieu ne peut être que le résultat d'une connaissance toujours plus grande de Dieu et de sa volonté. Plus je connais Dieu, et plus je l'aime. Plus je l'aime et plus j'ai envie de lui plaire. Et plus je vis une vie pour lui plaire en étant attaché au Seigneur, et plus je vais porter du bon fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, dit Paul. Des œuvres bonnes, et heureusement pour nous, que Dieu lui-même prépare pour chacun de nous. C'est Paul qui le dit dans ce texte très connu des Éphésiens, mais qu'il est important de nous remettre en mémoire ce matin. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Cela nous rappelle que s'il y a du bon fruit qui découle de notre vie, c'est parce que le Seigneur le prépare et le produit au travers de nous. Il n'y a aucune gloire personnelle à tirer du bon fruit qui peut exister dans notre vie. Chers amis, où en sommes-nous dans ce domaine? Est-ce que notre vie porte du fruit, du bon fruit, à la gloire de Dieu? Quelle belle résolution à prendre en ce début d'année que celle de vouloir porter du fruit pour Dieu par toutes sortes d'œuvres bonnes. Et puis quelle belle prière à faire les uns pour les autres, là aussi sans jugement, mais avec le désir de voir l'autre, de voir chacun progresser. Oui, prions les uns pour les autres, afin que nous portions et que nous portions encore plus du fruit à la gloire de Dieu par toutes sortes d'œuvres bonnes. La requête suivante, elle va concerner la croissance dans la connaissance de Dieu, mais nous l'avons déjà évoqué quand nous avons parlé de la connaissance de sa volonté. Je parlais de cercle vertueux, c'est exactement ce qui se passe ici, et on le voit, ça commence par la plénitude de la connaissance de sa volonté, ça se termine par la connaissance de Dieu. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de ce cercle vertueux. Et puis, il y a donc ce qui sera notre dernier point, cette dernière requête pour que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. De quoi s'agit-il ici? Il est facile, je pense, de se méprendre ici. La puissance dont il est question, ce n'est pas celle dont nous parlons dans nos médias, dont nous parlons dans notre monde. Ce n'est pas une puissance à des fins personnelles. Il ne s'agit pas de puissance pour dominer les autres, comme c'est malheureusement souvent le cas. Ce dont il est question ici, c'est de puissance, de capacité en vue de persévérer, ou d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Il s'agit ici de rendre l'enfant de Dieu capable de tenir bon, de résister dans l'épreuve, de résister face à la tentation. Voilà de quoi il est question, de persévérer quand les vents sont contraires, de persévérer quand l'objectif à atteindre semble encore tellement loin. Je suis tombé sur cette citation de Spurgeon. Spurgeon, ce grand prédicateur sur lequel je ne m'étends pas maintenant, mais qui disait d'une belle manière imagée, ça va certainement vous parler aussi, que c'est en persévérant que l'escargot est arrivé jusqu'à l'arche de Noé. C'est en persévérant. Il s'agit ici de rendre l'enfant de Dieu capable de persévérer, capable de patienter. Patienter quand la réponse de Dieu se fait attendre. Patienter quand la délivrance tarde dans notre vie. Patienter quand nous sommes incompris, peut-être mal jugés. patienter quand nous nous retrouvons dans une situation qui met notre foi au défi. J'aimerais attirer votre attention ici sur le fait que cette puissance, cette capacité dont parle Paul vient de Dieu. Bien sûr, mais il faut quand même s'en souvenir. Elle ne vient pas de nous, elle vient de sa force glorieuse. Et il est vraiment illusoire et dangereux pour nous de penser que nous pouvons y arriver par nous-mêmes, que nous avons en nous la force de faire tout ce que nous avons dit jusqu'ici, et en particulier de tenir bon dans l'adversité. Mes amis, si c'est ça que vous pensez, alors vous allez aller droit dans le mur, parce que la seule force qui nous permet de résister dans l'épreuve, c'est celle-là. C'est celle qui vient de Dieu, celle qui vient de sa force glorieuse. Et cette leçon, je l'ai apprise souvent dans la douleur, peut-être vous aussi, la douleur de nos échecs, la douleur des occasions que nous avons gâchées, la douleur à cause de nos suffisances, ou les échecs, à cause de nos suffisances, quand nous pensons que nous avons ce qu'il faut, à cause de notre arrogance, à cause de notre indépendance vis-à-vis de Dieu, qui est quand même le cœur du péché. Et cette indépendance, elle vient constamment nous titiller. Elle ne cesse de vouloir se manifester. La vie spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, si nous sommes enfants de Dieu, c'est une vie qui ne peut se vivre que par l'Esprit. C'est ça une vie spirituelle, hein ? C'est une vie qui ne peut se vivre que par l'Esprit, que par sa force, que par sa sagesse, que par sa connaissance, que par la puissance, la force, les capacités que Dieu nous donne par son Esprit. Un cantique ancien dit « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Vous connaissez la réponse ? La force est en Christ. La force est en Christ, tout est dit. C'est en Christ que nous devons puiser notre force pour marcher, et en particulier quand nous sommes dans l'adversité. Et ainsi, comme Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, alors nous pourrons tout par celui qui nous fortifie. Nous pourrons tout par celui qui nous fortifie. Si nous sommes au Seigneur, la tentation de baisser les bras se produira, se reproduira immanquablement. Soyons préparés à ce moment-là. Pour ne pas être pris de court, soyons préparés en étant convaincus que la force est en Dieu, que la force pour y faire face, elle est en Christ et en Christ seul. Elle vient de sa force glorieuse. Chers amis, où en sommes-nous dans ce domaine ? Est-ce que notre vie est marquée par la force que Dieu nous donne ? La force de tenir bon dans l'épreuve. La force de tenir bon face à la tentation. Quelle belle résolution à prendre en ce début d'année ! Que celle de vouloir toujours plus nous attendre à Dieu, toujours plus dépendre de lui, dépendre de sa force, afin de pouvoir toujours persévérer et patienter dans toutes nos difficultés. Et puis quelle belle prière à faire les uns pour les autres. Là aussi sans jugement, mais avec le désir que chacun puisse progresser dans ce domaine. Alors oui, prions les uns pour les autres, afin que Dieu nous remplisse de sa force et que nous tenions bon face à toutes les vicissitudes et les tentations de la vie. Une des questions que je posais au commencement de ce message était, est-ce ainsi que nous prions ? Est-ce ainsi que nous prions les uns pour les autres ? Chers amis, l'apôtre Paul, dans ces versets que nous avons médités ce matin, nous donne un exemple, un bel exemple à suivre, un bel exemple à suivre. Et la question pour nous est celle-ci, le suivrons-nous ? Le suivrons-nous ? Il appartient bien sûr à chacun de le décider ou pas. Ce que j'aimerais dire maintenant pour terminer en ce début d'année, c'est de nous encourager à être et à devenir toujours plus une Église aimante et bienveillante les uns envers les autres. Pas seulement en parole et en acte, c'est déjà très très bien en parole et en acte, mais j'aimerais aussi que nous ajoutions, si ce n'est pas le cas, par la prière. Une Église aimante et bienveillante parce que nous prions les uns pour les autres. Et pas seulement quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un a un problème particulier, mais dans les lignes, pour cette croissance et cette maturité spirituelle. Parce que c'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne ce qu'il ordonne. C'est lui et lui seul qui peut nous affermir et nous faire grandir dans la foi. Alors que Dieu nous aide chacun à avancer dans ce sens en 2023. Et si nous prions ainsi les uns pour les autres. Amen.